Lizzie présente La clé de Salomon de José Rodríguez dos Santos, lu par Philippe Allard. À Florbella, ma femme, et à Catalina et Inés, mes filles. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toute chose. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Tao Te King, livre 1er, chapitre 1er, le livre de la voie et de la vertu, composé par Lao Tzu au VIe siècle avant Jésus-Christ et traduit par Stanislas Julien, membre de l'Institut et professeur au Collège de France. Avertissement. Toutes les informations scientifiques et techniques ici présentées sont authentiques. Toutes les théories et hypothèses ici exposées sont défendues par des scientifiques reconnus. Prologue. L'homme au regard glacial traversa le vestibule d'un pas décidé en direction du dispositif de contrôle d'accès au CERN. Il ne se souvenait pas d'avoir vu tous ses appareils de surveillance la dernière fois qu'il était venu, mais les drapeaux tricolores accrochés dans le hall lui rappelèrent que le président français devait visiter les installations la semaine suivante.
« Foutu français !» marmonna-t-il.
Agacé, il ignora le tapis roulant sur lequel il était censé déposer le contenu de ses poches et se dirigea directement vers le détecteur de métaux. Il s'immobilisa alors, telle une momie. Un agent de sécurité suisse lui fit signe d'avancer. Le visiteur, apparemment marqué par le poids des ans, fit deux pas en avant et, tout en lisant « Jean-Claude Bloch » inscrit sur le badge qui pendait au cou du garde, franchit le détecteur. Le portique sonna. Un scanner à la main, l'agent s'approcha.
« Écartez les bras, s'il vous plaît. »
L'homme s'exécuta et le garde le balaya de son scanner. Au niveau des hanches, l'engin émit un son significatif. Le visiteur mit les mains dans les poches, tel un enfant qui se serait fait prendre en train de voler des bonbons.
« Ce ne sont que des clés, quelques pièces de monnaie et mon téléphone portable. »
murmura-t-il.
« Rien d'extraordinaire, comme vous pouvez le constater. »
Le dénommé Bloch le regarda d'un air désapprobateur et désigna le tapis roulant.
« La prochaine fois que vous viendrez ici, vous y déposerez vos objets en métal. Ça nous facilitera le travail. »
dit-il, une pointe d'irritation dans la voix. L'inconnu maugréa et le garde, impassible et tout à sa tâche, reprit l'examen à l'aide du scanner. Il le passa sur les jambes, puis ordonna à l'homme d'ôter ses chaussures. Il fit glisser ensuite l'appareil le long de ses épaules et de ses bras. Lorsqu'il arriva à la poitrine, l'appareil émit un nouveau son.
« Merde !»
vociféra le vieux, contrarié.
« J'ai oublié mon petit joujou !»
Il plongea la main à l'intérieur de sa veste. Le garde écarquilla les yeux, atterré lorsqu'il vit le visiteur sortir un revolver de sa poche. Il recula d'un bond, se figea un instant, puis dégaina son arme d'un mouvement rapide.
« Pas un geste !»
cria-t-il, tenant en joue le visiteur.
« On ne bouge plus !»
Alertés par les hurlements de leurs collègues, les autres agents de sécurité sortirent leurs armes à leur tour. L'alarme commença à retentir dans le hall, provoquant une confusion totale. Certaines personnes se mirent à crier, d'autres couraient vers la sortie. En un instant, la tranquillité avait laissé place au chaos généralisé.
« Allons, messieurs, n'exagérons rien. Ce n'est que mon vieux Colt. Un honnête citoyen ne peut plus se protéger dans un monde si violent. »
Pas un geste !
Insista Bloch, son glock de service pointé vers l'intrus.
Baissez-vous lentement et posez votre arme par terre !
Il fit un geste menaçant pour souligner son ordre.
Très lentement, vous avez entendu ? Au moindre mouvement suspect, je n'hésiterai pas à tirer.
C'est bon, c'est bon !
Rétorqua le visiteur, apparemment peu impressionné par toute cette agitation.
« Je connais la procédure, ne vous en faites pas !»
Le vieux se baissa doucement et posa son colt par terre. Puis il se releva, les bras en l'air. Du bout du pied, le garde qui se trouvait près de lui écarta le pistolet, puis, tranquillisé, désigna le sol avec son arme.
« Couchez-vous, les mains derrière la nuque !»
L'inconnu lança avec flegme.
« Écoutez, vous ne trouvez pas que vous en faites trop. Ce qui s'est passé, c'est simplement un petit... »«
Couchez-vous !»
Le visiteur se tint un long moment debout, jaugeant de son regard glacial les gardes qui le tenaient en joue, évaluant froidement la situation. Finalement, il soupira et baissa lentement les bras. Tous attendaient qu'il se couche par terre, comme il le lui avait ordonné, mais le vieil homme resta debout.
« Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ?»
insista Jean-Claude Bloch en le menaçant de son arme.
« Couchez-vous immédiatement !»
Toujours avec des gestes lents et précis, les yeux rivés sur les hommes qui l'entouraient, l'inconnu plongea de nouveau la main à l'intérieur de sa veste.
« On ne bouge pas !»
brailla Bloch, craignant que le visiteur ne sorte une autre arme.
« Les mains en l'air ou je tire !»
Le vieux ignora une fois de plus l'avertissement. Lentement, il glissa les doigts dans la poche intérieure de son costume, en sortit une carte et la présenta à l'agent de sécurité. Malgré la tension, Bloch jeta un coup d'œil sur le document. Il compara la photo au visage de l'homme qui se tenait en face de lui. Les iris bleus et calculateurs étaient les mêmes, tout comme les rides au coin des yeux, le visage long et sec, le menton carré et les cheveux blancs comme neige. Pas de doute, il s'agissait bien du visiteur. Il examina le reste de la carte. À droite, un cercle bleu entourait la tête d'un aigle. En bas, il y avait un long code-barre. Entre la photo et le cercle, des données identifiaient le détenteur du document. En haut figurait la mention « Employee 1123XO ». Au milieu, l'indication « Status Directorate of Science and Technology Director ». Et en bas, le nom et l'habilitation de sécurité de niveau 5.
« Bel ami !»
se présenta le vieux au regard glacial avec l'assurance de ceux qui étaient habitués à commander.
« Franck, bel ami !»
L'agent de sécurité suisse regardait la carte d'identité, bouche bée.
« Vous êtes de la CIA !»
confirma bel ami d'un ton cassant.
« Félicitations, mon garçon. Vous savez lire. Vous êtes un vrai petit génie !»
Un brouhaha fébrile emplissait le centre de contrôle du CERN. Ingénieurs, informaticiens et physiciens s'y côtoyaient, les uns le regard rivé sur des écrans, les autres silencieux ou murmurant nerveusement quelques observations. La tension était palpable, et cela n'avait là rien de surprenant. Tous préparaient une expérience d'une importance cruciale, une expérience qui pourrait permettre de répondre à certaines des questions les plus fondamentales de l'humanité. Comment l'univers a-t-il été créé? Combien de dimensions existe-t-il? Y a-t-il un anti-univers? Les ordinateurs et les climatiseurs fonctionnaient à plein régime, générant un bourdonnement qui emplissait la salle de contrôle. Une rumeur constante, seulement interrompue par la voix sèche du directeur qui, tel un chef d'orchestre, coordonnait les opérations et par les réponses syncopées des opérateurs auxquels il posait ses questions.
Le booster?
S'enquit le directeur, tenant dans la main un mug de café orné du logo du CERN.
« Il fonctionne à pleine puissance ?»«
Négatif, »
répondit l'opérateur.
« Il est encore en phase d'accélération. »«
À quel niveau ?»«
Énergie 70 mégaélectronvolts, en augmentation. »« La prochaine injection se fera dans l'anneau 1, segment 1, deux paquets. » « Vérification. »
Le directeur se tut.